Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le syndrome de Cushing et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Rosario Pivonello. Professeur Pivonello, bonjour.
Bonjour.
Professeur Pivonello, vous êtes endocrinologue, professeur d'endocrinologie à l'Université Frédéric II à Naples, en Italie, et vous exercez également en tant qu'endocrinologue libéral à Naples. Vous êtes membre de la Société italienne d'endocrinologie, auteur de nombreuses publications nationales et internationales, et à ce titre, reconnu comme l'un des experts internationaux dans le domaine de l'endocrinologie, et en particulier de l'hypophyse et du syndrome de Cushing. Professeur Pivonello, nous abordons aujourd'hui l'approche multidisciplinaire de la prise en charge du syndrome de Cushing. En tenant compte de votre expérience avec les patients atteints de cette pathologie, quelle est l'importance de la coordination entre les différents praticiens ?
L'approche multidisciplinaire est un élément essentiel de la prise en charge des patients atteints du syndrome de Cushing. Elle est importante tout au long du processus clinique, du diagnostic au traitement, mais également pendant le suivi des patients. Le syndrome de Cushing peut avoir différentes causes, notamment des tumeurs hypophysaires, des lésions bénignes ou malignes au niveau des surrénales ou des tumeurs extra-hypophysaires. Alors, compte tenu de cette hétérogénéité quant à l'étiologie du syndrome de Cushing, la prise en charge requiert une bonne coopération entre les endocrinologues et différents spécialistes pour fournir les meilleurs soins possibles aux patients et favoriser des processus diagnostiques et thérapeutiques. Pour ça, de nombreux centres cliniques, y compris le nôtre, organisent des réunions multidisciplinaires régulières dédiées à l'évaluation de cas individuels de patients atteints du syndrome de Cushing. Ces réunions, que nous pouvons appeler RCP hypophyse ou RCP syndrome de Cushing, réunissent au moins 4 spécialistes médicaux ou chirurgicaux différents, tous impliqués dans la prise en charge de chaque cas clinique abordé. Ils mettent à disposition leur expertise, leur connaissance spécifique de cette pathologie, mais bien sûr, il faut garder à l'esprit qu'une approche multidisciplinaire n'implique pas que l'endocrinologue ait une importance moindre dans la prise en charge du syndrome de Cushing. Au contraire, l'endocrinologue reste l'acteur principal de ces réunions, puisque leur rôle est de coordonner toutes les suggestions et opinions de chaque spécialiste en une seule décision clinique, au travers d'une vision transverse adaptée aux besoins spécifiques de chaque patient.
Et plus précisément, quels sont les spécialistes habituellement impliqués dans la prise en charge des patients atteints du syndrome de Cushing ?
Alors, de nombreux spécialistes différents sont impliqués. Ils varient également au cours des différentes étapes cliniques, puisque de nouveaux besoins peuvent apparaître au cours de l'évolution de la maladie. Dans un premier temps, et c'est le cas dans toutes les pathologies, la prise en charge consiste principalement en l'établissement du diagnostic. Dans le syndrome de Cushing, c'est l'identification morphologique, l'identification de la source du taux excessif de cortisol nécessaire pour mettre en place la meilleure approche thérapeutique adaptée spécifiquement à chaque patient. Dans cette phase diagnostique, les radiologues ou les spécialistes en médecine nucléaire sont généralement impliqués, et en particulier le neuroradiologue qui a une connaissance spécifique de la région hypophysaire, puisque la maladie de Cushing est causée par de très petites tumeurs hypophysaires pouvant être quasiment invisibles. Les détecter, ça représente donc un défi diagnostique pour de nombreux radiologues et ça nécessite d'avoir un expert en tumeur hypophysaire dans l'équipe. Alors, une fois le diagnostic établi, le syndrome de Cushing nécessite la mise en place immédiate d'une stratégie thérapeutique. À l'heure actuelle, la chirurgie est le traitement de première ligne du syndrome de Cushing et donc les neurochirurgiens dans le cadre de la maladie de Cushing ou les chirurgiens généraux et les oncologues pour les autres formes du syndrome de Cushing participent activement au processus thérapeutique. Ils donnent leur avis sur les différentes thérapies en fonction du succès potentiel de la chirurgie. Néanmoins, la chirurgie peut ne pas être possible ou recommandée chez certains patients, et d'autres modalités de traitement, comme la radiothérapie ou la chimiothérapie, en cas de tumeur maligne, doivent être envisagées. Elles nécessitent alors l'intervention d'autres spécialistes, comme les oncologues et les radiothérapeutes, par exemple. Enfin, il ne faut pas oublier que le syndrome de Cushing est associé à de nombreuses comorbidités qui nécessitent, selon l'atteinte, l'intervention d'un spécialiste pour fournir les meilleurs soins possibles. Par exemple, nous avons besoin de cardiologues pour prendre en charge l'hypertension et les maladies cardiovasculaires associées à la maladie. De même, nous pouvons avoir besoin de psychiatres, de psychologues ou de neurologues pour les maladies neurocognitives et psychiatriques, ou encore de kinésithérapeutes pour la prise en charge des dystrophies musculaires, d'andrologues pour les problèmes d'infertilité associés à la maladie, ou d'infectiologues ou d'immunologistes pour la prévention des maladies infectieuses ou la prise en charge des maladies auto-immunes. Ces médecins sont aussi couramment impliqués dans la prise en charge à long terme des patients atteints du syndrome de Cushing, et leur présence est importante non seulement pendant la phase active de la maladie, lors du diagnostic et de la mise en place des premiers traitements, mais aussi après la rémission, parce que de nombreuses comorbidités persistent partiellement ou totalement chez les patients, même après rémission.
Professeur Pivonello, les patients atteints du syndrome de Cushing consultent souvent, en premier lieu, leur médecin généraliste. Quel est le rôle de ce dernier dans la prise en charge de ces patients ?
Alors, les médecins généralistes sont effectivement souvent les premiers à se retrouver face aux patients atteints du syndrome de Cushing. Ils sont donc en première ligne et par conséquent, ils ont un rôle majeur à jouer, celui de reconnaître les patients avec une forte suspicion d'hypercorticisme ou de syndrome de Cushing pour les adresser à un endocrinologue le plus rapidement possible. Ainsi, il faut qu'ils soient très attentifs et qu'ils considèrent ce diagnostic quand ils font face à un patient qui présente de nombreuses comorbidités ou lorsque certaines comorbidités sont inhabituelles pour l'âge ou le sexe du patient en question. En particulier, je dirais qu'ils doivent se concentrer sur l'investigation clinique, sur les signes et symptômes qui peuvent être spécifiquement liés au syndrome de Cushing. Par exemple, un visage lunaire avec un aspect pléthorique, des bourrelets graisseux supraclaviculaires et dorsaux, une obésité abdominale, des stries violacées sur l'abdomen ou sur une autre partie du corps, ou des atrophies musculaires proximales. De même, une prise de poids importante en quelques mois, malgré les efforts du patient pour en perdre, ou une augmentation récente de la pression artérielle et de la glycémie, une hypertension, un diabète non contrôlé qui surviennent par exemple à un jeune âge, ou lorsqu'on ne s'y attend pas, indépendamment de traitement pharmacologique, doivent alerter. Des fractures osseuses spontanées qui surviennent chez des patients jeunes ou chez des hommes, chez qui elles sont moins attendues que chez les femmes après la ménopause, doivent alerter également. D'autres manifestations cliniques, comme la dépression ou la psychose, peuvent également suggérer ce type de maladie. Donc, le rôle du médecin généraliste, je pense, est très important. Lors de l'évaluation de ces manifestations cliniques, les médecins généralistes doivent aussi évoquer les diagnostics différentiels pour lesquels ces manifestations sont courantes. Par exemple, le syndrome métabolique, le diabète, la dépression ou encore le syndrome des ovaires polykystiques, plus commun chez la femme avec des caractéristiques cliniques communes avec le syndrome de Cushing et qui nécessite des examens hormonaux et biochimiques. Souvent, ce n'est pas facile, mais c'est très important. De plus, pour accélérer le diagnostic, une batterie de tests, comme par exemple l'évaluation de l'ACTH circulante, le taux de cortisol ou le taux de cortisol libre urinaire, sont généralement nécessaires et doivent être demandés par les médecins généralistes pour un dépistage de première ligne du syndrome de Cushing, pour aider à mieux identifier les patients lors de cette évaluation endocrinologique.
Et concernant cette relation entre les médecins généralistes et les spécialistes, quand les patients doivent-ils être adressés à un endocrinologue ?
Alors, en général, l'orientation vers un endocrinologue est cruciale pour fournir un diagnostic sûr, correct, complet et rapide chez ces patients atteints d'un syndrome de Cushing. C'est ce qui garantit par la suite une prise en charge thérapeutique rapide pour cette maladie sévère et pour ses complications. Donc, d'une façon générale, je pense que les médecins généralistes devraient adresser leurs patients à un endocrinologue dès la suspicion clinique modérée de syndrome de Cushing. C'est encore mieux si cette suspicion est associée au moins à un résultat anormal des paramètres biologiques, comme un taux élevé de cortisol libre, afin d'alerter l'endocrinologue et qu'il ait quelques éléments initiaux pour éviter les retards diagnostiques. Je dirais même que les patients présentant une suspicion clinique modérée ou élevée peuvent être adressés à un endocrinologue, même en l'absence de résultats hormonaux anormaux, car de nombreuses situations différentes peuvent conduire à des résultats peu clairs. Par exemple, les erreurs dans les prélèvements urinaires, comme des prélèvements incomplets, ou des erreurs de stockage, de traitement inapproprié des échantillons sont très fréquents en endocrinologie. Et certains médecins peuvent ne pas être conscients de ces exigences spécifiques à l'évaluation et donc potentiellement sous-estimer leur impact sur les résultats biochimiques. Par conséquent, au-delà de la nécessité d'améliorer la sensibilisation et la connaissance des professionnels de santé sur le syndrome de Cushing, une orientation précoce en cas de suspicion clinique modérée devrait toujours être envisagée par les médecins généralistes et elle devient alors obligatoire et urgente lorsque ces situations sont associées à une altération du profil hormonal.
Eh bien, merci infiniment, professeur Pivonello, de nous avoir éclairé sur le syndrome de Cushing. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses autres informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. À très vite !